Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, c'est parti. Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Il y a de l'actu ce soir encore, hein, avec le psychodrame de l'article 24 qui va donc être réécrit. Vous savez, c'est cet article qui devait interdire la diffusion malveillante d'images de policiers, qui a mis beaucoup de monde dans la rue ce week-end, qui a aussi provoqué une crise politique aujourd'hui. Il paraît que le chef de l'État était furieux tout à l'heure. On en parlera à 18h15 avec Jean-Louis Debré. On en débattra largement aussi dans Le Monde tel qu'il est à partir de 19h15. Avant tout cela, 18h30, l'œil de Natacha Polony, revoilà la réforme des retraites. Manquez plus qu'elle, manquez plus que ça, nous dira Natacha Polony. 18h35, le professeur Saillant, c'est lui qui veille sur la sécurité et la santé des pilotes de Formule 1. Et ce soir, Romain Grosjean lui doit beaucoup. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce lundi 30 novembre.
Et les commerçants n'ont pas forcément le sourire. La réouverture ce week-end a en effet été timide. RTL vous dévoile ce soir les tout premiers chiffres. Dans ce journal également, la reprise du procès de Nicolas Sarkozy et l'ancien président a donné de la voix dès le début de l'audience. Et puis le prix Goncourt attribué par visioconférence, c'est Hervé Le Tellier qui l'emporte pour son roman L'Anomalie, joli clin d'œil en cette année vraiment pas normale. Les courses, le Quintet Plus se courait aujourd'hui à Vincennes, il fallait jouer le 9, le 3, le 5, le 15 et le 4.
La météo, bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas, bonsoir
comme
à tous.
Comme dirait Amandine Bégaud, on se pèle.
Oui, il fait froid
et comme,
il va y avoir de l'humidité, et bien mélange de froid et humidité, qu'est-ce que ça donne? Et bien oui, soit des pluies verglaçantes, soit de la neige à très basse altitude, voire jusqu'en plaine la nuit prochaine. Alors à surveiller sur les Ardennes, sur la Lorraine, sur l'Alsace, en descendant vers la Franche-Comté, entre cette nuit et demain matin, donc quelques flocons, quelques pluies verglaçantes. Dans toutes ces régions, soyez prudents. Dans les autres régions, on aura bien de la pluie qui circulera cette fois-ci entre les côtes de la Manche et le centre. Et puis en cours d'après-midi, on retrouvera encore des averses de neige en montagne, de la pluie en plaine sous forme d'averses du nord-est jusqu'aux Pyrénées. Quelques éclaircies reviendront près de l'Atlantique, sur l'étoile de la Manche. Ailleurs, encore beaucoup de nuages, mais moins de précipitations. Même chose près de la Méditerranée, où avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, ça sera un petit peu moins agité.
Un petit peu votre voix, vous êtes un petit peu pris le froid, non?
Ah bon? Oui, c'est le froid, bah c'est ça, qu'est-ce que vous voulez. Les températures demain matin, donc, dégelées dans le nord-est, et puis l'après-midi, 3 à 5 degrés seulement dans ces régions du nord-est, 8 à 10 degrés dans la moitié nord, un petit peu plus en Bretagne, et 9 à 15 degrés dans le sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Marche arrière, reculade, renoncement ou simple bon sens, chacun l'interprétera comme il voudra. Ce qui est sûr ce soir, c'est que l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, celui qui prévoyait de pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre, va être entièrement revu et corrigé. C'est Christophe Castaner, le patron des députés En Marche, qui l'a annoncé tout à l'heure.
Trop de questions subsistent. Nous savons que des doutes persistent encore. Nous devons éteindre ces doutes. Mesdames et messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Cette annonce, elle intervient à l'issue d'une réunion de crise autour d'Emmanuel Macron. Clairement, les murs ont tremblé.
Oui, c'est ce qu'on appelle un bon gros savon dans le bureau du patron. Un rendez-vous du genre on baisse les yeux, on regarde ses chaussures et on attend que ça passe. Une colère froide, comme Emmanuel Macron en est coutumier, nous confirme un ténor de la majorité qui était ce matin convoqué à l'Élysée avec Gérald Darmanin ou encore avec le Premier ministre Jean Castex. Mais comment diable s'est-on mis dans cette galère politique, se demande tout haut le président. Le chef de l'État est d'autant plus irrité qu'il reste persuadé que les Français, dans leur immense majorité, soutiennent tout ce qui peut aider à mieux protéger les forces de l'ordre. Alors, les consignes sont passées, pas de retrait de la loi, pas de retrait de cet article 24, mais donc une réécriture en espérant que cela suffise à faire retomber la pression. Emmanuel Macron veut enfin que son ministre de l'Intérieur lui fasse rapidement des propositions, réforme de la police des polices ou encore de la formation et du recrutement des gardiens de la paix, des propositions que Gérald Darmanin pourrait commencer à esquisser dans quelques minutes, puisqu'il va être entendu par la Commission des lois à l'Assemblée.
William Galibert, on aura évidemment une oreille sur ce qui va se dire à la Commission des lois de l'Assemblée. De tout ça, on parlera avec un ancien ministre de l'Intérieur. Ce sera Jean-Louis Debré dans une dizaine de minutes.
Sur le front du Covid, le premier bilan au lendemain de ce premier week-end de réouverture des magasins. Bonsoir Armelle Lévy.
Bonsoir.
Et vous avez fait les comptes et ce n'est pas l'euphorie.
Non, pas de frénésie dans les galeries marchandes et dans les lieux clos. Par exemple, dans les centres commerciaux, les chaînes de vêtements enregistrent une fréquentation en baisse de 40% et une chute de 20% du chiffre d'affaires comparé à l'an dernier. Mais c'est était le Black Friday. À l'inverse, les clients se sont davantage rendus dans les zones en plein air, en périphérie, où l'on craignait moins les attroupements. Sans être la ruée, il y avait quand même du monde dans les magasins de jouets, où le panier moyen a bondi de 10% à 60 euros, donc le Père Noël veut faire plaisir. En revanche, les achats se sont poursuivis aujourd'hui, et ça c'est nouveau, comme explique Franck Mattet, le porte-parole de Jouet Club.
Si on regarde l'activité sur la mi-journée, on est en forte progression par rapport à l'an dernier. Mais c'est déjà un indicateur qui peut être prometteur. C'est vrai qu'on pense que, compte tenu du contexte, les gens vont s'organiser différemment. Beaucoup sont en télétravail, donc ils vont profiter de ce temps de télétravail pour faire un temps shopping et préparer leurs achats de Noël. Et surtout, ne pas faire la queue.
Et c'est le double effet déconfinement. Ce samedi, on a assisté à une ruée chez les coiffeurs et dans les magasins de vêtements et de chaussures pour enfants. Et oui, pas le choix. Les pieds poussent, ils grandissent et le froid arrive. Donc là, les ventes ont bondi de 25%.
Merci beaucoup Armelle. Armelle Lévy, c'est dans ce contexte que Jean Castex, le Premier ministre, s'est rendu tout à l'heure à Trappes, dans les Yvelines. Une visite d'un centre de formation continue pour promouvoir l'apprentissage et livrer au passage quelques consignes.
Soyez prudents, respectez les gestes barrières. Ne faites pas complètement les fous le réveillon du 31.
Ne faites pas complètement les fous le 31, sinon rebolote. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre. Il était au micro RTL de Jacques Seret.
Et un peu plus tôt, Jean Castex s'était entretenu avec les professionnels de la montagne. Pas question, il a répété d'ouvrir les remontées mécaniques pour Noël. Il promet en revanche un soutien renforcé aux acteurs de la montagne.
La Haute Autorité de Santé, elle a dévoilé sa stratégie, celle qui sera celle de la France en matière de vaccination. Priorité sera donnée à Gatlandais aux résidents des EHPAD.
Oui, car depuis le début de la crise, près d'un tiers des personnes décédées du Covid étaient des résidents d'EHPAD. Nos aînés seront donc vaccinés dès qu'on aura reçu les tout premiers vaccins, début 2021, en même temps que les soignants en maison de retraite. Une priorisation assumée par Dominique Le Guhudec, présidente de la Haute Autorité de Santé.
Cette priorisation, elle a un objectif très clair, de diminuer les hospitalisations et les décès, protéger en priorité les plus vulnérables et bien sûr tous ceux qui s'en occupent.
Une fois ces 1 million de personnes vaccinées, ce sera ensuite au tour d'autres publics cibles, les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans, et ensuite tous les personnels de santé de plus de 50 ans. Ce sera alors la fin de la deuxième phase de vaccination. 16 millions de personnes auront été appelées à se faire vacciner. Pour tous les autres, il faudra être plus patient, attendre que de nouvelles doses soient livrées. À noter que pour le moment, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans sont exclus de ce protocole de vaccination. Ils ne sont pas prioritaire, car même avec une comorbidité, il développe rarement des formes graves du Covid.
Agathe Landais, merci pour ces précisions. Il avait été interrompu en mars dernier à cause du premier confinement. Le procès de Joël Le Squarnec s'est ouvert aujourd'hui, début de ce qui est sans doute l'une des plus grandes affaires de pédophilie jamais révélées en France, puisque cet ancien chirurgien est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur 300 de ses patients. Là, cette fois, ce sont 4 plaintes qui sont examinées, celles de 4 victimes. Toutes mineures à l'époque des faits, elles ont souhaité que cette audience se tienne à huis clos, Alice Moreno.
Oui, la stricte intimité d'une salle d'audience s'est imposée. Il n'aurait pas pu en être autrement pour les deux nièces de Joël Le Squarnec. Les deux femmes, serrées l'une contre l'autre sur le banc des parties civiles, affrontent le regard de leur oncle qui est apparu dans le box. Il aurait abusé d'elles alors qu'elles étaient petites filles. L'intimité d'une salle d'audience, nécessaire aussi à Laura, la maman de la petite voisine du chirurgien. La fillette aurait été violée par Joël Le Squarnec alors qu'elle n'avait que 6 ans. Laura, rongée par la colère, n'a montré son visage que pour fixer l'agresseur de sa fille. Mais dans les couloirs du tribunal, elle est restée encapuchonnée dans un épais manteau, loin des caméras. L'intimité d'une salle d'audience pour faire éclater peut-être de lourds secrets de famille. L'intimité d'une salle d'audience que les avocats ne briseront pas. Ils promettent tous de ne rien révéler des débats jusqu'au verdict attendu à la fin de la semaine.
Alice Moreno devant la cour d'assises de Charente-Maritime pour RTL.
Restez avec nous dans un instant. On va notamment prendre des nouvelles de Romain Grosjean.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Otto.
18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et première alerte sérieuse depuis le 8 novembre sur le Vendée Globe.
Le skipper Kevin Escoffier, troisième au dernier classement, a déclenché tout à l'heure sa balise de détresse en raison d'une importante voie d'eau à bord de son bateau. Il a été demandé au concurrent le plus proche, en l'occurrence Jean Le Cam, de se dérouter pour se rapprocher de lui le temps que les secours puissent arriver. Romain Grosjean, lui, devrait quitter l'hôpital demain, mais il sera forfait au moins pour le prochain Grand Prix. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure valeur son écurie après ce spectaculaire accident hier. La voiture du Français coupée en deux qui a pris feu après s'être encastrée à 220 km/h, 28 secondes plus tard. Grosjean était dehors, quasi indemne, un miracle. Le résultat aussi de beaucoup, beaucoup de travail. Bonsoir Philippe Sanfour.
Bonsoir.
On l'oublie souvent, hein, mais les pilotes de Formule 1, ce sont d'abord des athlètes de très haut niveau.
Et oui, capables d'encaisser toute une course, des pressions répétées de 5G. Alors 5G, c'est quoi? C'est 5 fois le poids de la tête, par exemple. 8 kilos avec le casque, eh bien, elle va peser 40 kilos dans chaque virage, d'où un énorme travail musculaire chez les pilotes, comme l'explique Mathieu Zangarelli, directeur sportif de l'écurie ART.
À la fois le cou, pour éviter un étirement de la nuque lors de cette décélération, toute la chaîne abdominale lombaire. Le haut du corps d'un pilote de Formule 1, il est extrêmement résistant, extrêmement puissant et très tonique. Ce qui a certainement permis à Romain de sortir de la voiture, c'est cette capacité physique à avoir pu absorber ce type de décélération-là et être en mesure de pouvoir réagir avec les bonnes actions dans un temps extrêmement bref. Que l'impact qu'a eu Romain hier, un organisme lambda aurait certainement perdu connaissance au moment de l'impact.
On peut rappeler que sur un Grand Prix de Formule 1, un pilote, par exemple, va perdre parfois 5 kilos et brûler jusqu'à 1500 calories. C'est un petit peu moins qu'un marathonien, mais à raison de 15 à 20 Grands Prix par an, avec à chaque fois une sollicitation cardiaque intense, plus de 180 pulsations minutes en moyenne et pendant 2 heures.
Bah dis donc. Il y en a qui vont se mettre à la formule, hein, j'ai l'impression. Philippe Sanfour, du service des sports de RTL. On y reviendra à 18h35 avec le professeur Gérard Saillant, qui a beaucoup travaillé, hein, sur toutes ces questions et sur le protocole de sécurité. Merci Philippe.
Et puis c'est aujourd'hui qu'était décerné le prix Goncourt, un prix particulier en cette période de crise sanitaire. Pas de délibération à table ni de bousculade à l'arrivée du lauréat. C'est par visioconférence, et oui, que le jury a annoncé le vainqueur. Chaque juré était confiné chez lui. Ça a donné, écoutez, quelques scènes cocasses.
Mais Didier, il a mis son micro, il a pas mis.
Mais c'est pas moi qui ouvre mon micro.
Si, tu mets ton micro.
Il a son micro.
Ça, c'est les jurés, donc, du prix Goncourt. Le vainqueur, c'est donc Hervé Le Tellier et son roman L'Anomalie, un joli clin d'œil, là encore, pour lui, qui restait jusqu'ici un auteur plutôt confidentiel.
On ne vient jamais de nulle part, et d'une certaine manière, j'ai trouvé que cette récompense était une récompense qui récompensait aussi le jeune lecteur que j'étais, d'avoir finalement aimé les livres que j'avais aimés, d'avoir écrit comme je voulais écrire ce livre, avec la plus grande liberté. Donc j'ai trouvé que c'était une récompense pour ma liberté d'écrivain. D'une certaine manière, j'avais écrit le livre que j'avais envie d'écrire, et je trouvais que c'était heureux qu'un livre qu'on a écrit avec plaisir et bonheur puisse être récompensé. C'est toujours difficile d'analyser la raison du succès des livres, comme il est difficile d'analyser leurs échecs, mais la vie d'un écrivain, ça se fait sur une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Donc oui, l'anomalie est une anomalie dans ma carrière, mais c'est une heureuse anomalie.
Une heureuse anomalie. Hervé Le Tellier, joint pour RTL par Bernard Lehu. Le prix Renaudot, lui, a été décerné à Marie-Hélène Lafont pour son roman Histoire du fils.
Et sinon, on décernait le grand prix du 18h à la grande roue de Lille qui va donc être installée en centre-ville. Mais on n'aura pas le droit
dedans.
De monter sans
oui,
public.
Voilà, c'est comme le ski sans remontée mécanique.
C'est fantastique. C'est assez révélateur de notre époque. La grande roue sera à Lille, mais vous ne pourrez pas monter à bord. Ainsi va la vie. Merci beaucoup, Amandine. À tout à l'heure.
Il
a été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel. En plein psychodrame sur l'article 24, Jean-Louis Debré est donc l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir.